À qui le tour la suite, l'invité maintenant à 18h, c'est Sandy Beauvais du planning familial.
Oui, Sandy qui vient nous présenter ce colloque intitulé « Le mariage forcé, une atteinte aux droits humains » ou encore « Prévenir et lutter contre les mariages forcés ». Ça se déroule jeudi 14 avril à Toulouse, à l'école régionale de la deuxième chance. On va commencer tout de suite, hein. On fait comme ça, Aurélien, on attaque tout de suite cette conversation. Oui, parce que comme ça on a un peu plus de temps, plutôt que de mettre de la musique. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y pose tranquillement. Alors on y va, doucement. Sandy Beauvais, d'abord il y en a qui en écoutant cette émission peuvent se dire mais enfin le mariage forcé, ça n'existe plus.
Alors le mariage forcé c'est une réalité qui existe depuis très longtemps dans plein de sociétés, qui a existé en France il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on aura une des intervenantes au colloque justement qui retracera un peu de l'histoire en France. Le contrôle de la sexualité des plus jeunes et notamment des femmes, c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon récurrente. Et le mariage forcé c'est une violence faite aux femmes, parce qu'effectivement c'est notamment énormément les femmes qui sont victimes de ces pratiques, qu'on va retrouver régulièrement. Alors c'est effectivement, même dans nos campagnes, ça peut continuer à être pratiqué dans certaines classes sociales et dans certains groupes religieux aussi.
D'accord. Alors aujourd'hui, le mariage forcé, ça se passe comment ?
Alors ça se passe comment ? Mais c'est-à-dire que alors si on dit c'est une réalité, oui, c'est une réalité, des chiffres on n'en a pas. En France, on aime bien chiffrer, pour le moment, on n'a pas d'enquête qui nous permet d'évaluer. Nous, au niveau des pratiques avec les partenaires sur les terrains et sur tout le territoire français, on a des situations, on a des jeunes qui nous demandent de l'aide pour éviter des mariages, on a des situations d'extrême dangerosité et hélas, les gens n'étant pas sensibilisés, très peu de gens se rendent compte que derrière peut y avoir des dangers très importants pour les personnes et résultat, on ne réagit pas nécessairement comme il faut au moment où il faut. Donc ce colloque, il a pour objet sur le territoire de Midi-Pyrénées de sensibiliser toutes les personnes qui, de par leur fonction, peuvent agir sur ces questions et de mettre en place sur chaque département des réseaux de prévention et de lutte contre les mariages forcés. L'idée, c'est d'être au plus proche du terrain parce que sur une région comme Midi-Pyrénées, il y a quand même 8 départements, c'est vaste, chaque département a ses spécificités, ne connaît pas les mêmes problématiques et l'idée, c'est quand même que là où on est, on puisse trouver avec les acteurs qui sont sur place, des recours et des possibilités. C'est pour ça que ce colloque, il est installé à Toulouse, à l'école régionale de la deuxième chance. Alors, on ne fait pas que faire le colloque à l'école, hein, c'est l'école régionale de la deuxième chance, c'est un partenaire du colloque, hein, on a monté ce colloque avec ces personnes, ça nous paraissait important, parce que c'est un lieu où ils travaillent énormément sur la prévention et la lutte contre les mariages forcés aussi, puisqu'ils ont une population qui peut être énormément concernée, notamment des personnes qui ont été victimes de mariages forcés. Et puis, ce qu'on voulait surtout, c'était que tous les départements puissent se mobiliser, que la région puisse s'inscrire dans un projet qui est national et qui est soutenu par l'Europe. En fait, c'est un projet européen qui est porté par le planning familial au niveau national. Mais l'idée, c'est bien effectivement de quadriller tout le territoire français de façon à pouvoir repérer et protéger les personnes en danger. Et puis, hélas, pour les autres, ceux qui ont déjà été victimes, de pouvoir les accueillir et les soutenir.
Alors, pas de chiffres, de toute manière, mais par contre, une façon de faire. Le mariage forcé, c'est... je m'appelle Layla.
Oui, j'ai, ou Karine, c'est pas nécessairement Layla.
Ou Karine, mais d'accord. Alors, bon, on va essayer d'éviter effectivement les polémiques sur... les polémiques ethniques, on va dire. Mais bon, alors, je m'appelle Layla ou Karine. Hein. Et puis, un jour, j'ai 16 ans. Je crois que tout va bien. Je m'amuse comme tout le monde. Je vais même en discothèque de temps en temps avec les copines. J'ai mon téléphone portable. J'ai mon Facebook. Je m'amuse bien. Je suis même habillé tout à fait à la mode. Je suis comme tout le monde. Je joue à la PlayStation avec mon grand frère. Et puis, un jour...
J'ai aucune idée qu'un jour, on va me proposer de me marier avec quelqu'un. Mmh. Et je pense même pas que ce soit possible. Alors, ça dépend des familles. Il y a des endroits où les jeunes filles savent qu'effectivement, ça peut leur arriver. Donc, du coup, elles peuvent se préparer et peut-être trouver des stratégies pour se protéger de ce type d'union. Et puis, il y a effectivement actuellement beaucoup de jeunes filles et parfois aussi des jeunes hommes pour qui d'un seul coup ça arrive dans leur vie, pas nécessairement qu'à 16 ans, ça arrive à l'adolescence, c'est vrai souvent, parce que dès que les personnes sont en capacité, je dirais, d'avoir une vie sexuelle, c'est une réalité aussi, hein, c'est une façon de faire pour contrôler la sexualité de la génération suivante, mais ça peut arriver aussi pour des jeunes qui font des études, qui franchement sont à des lieux de pensée qu'un jour, on va leur demander de se marier avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et avec qui ils ne veulent pas être.
Et là, quand ça arrive, comment ça se passe? Habituellement, enfin, oui, si, dans la grande majorité des cas, même si on n'a pas de chiffres, est-ce que y a une acceptation ou bien y a plutôt justement une lutte contre cet état de fait?
Alors ça va dépendre. Chaque personne est différente, chaque situation est différente et chaque stratégie va être différente. En fait, ce qui va se passer, c'est que le choix, il est simple. C'est soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Si je n'accepte pas, je me mets en risque d'être en rupture avec la famille et de devoir fuir. Parce qu'effectivement, les incidences peuvent être extrêmement importantes. Le fait de refuser cette union, ça peut se négocier parfois avec la famille, mais parfois ça va très loin. Ça peut aller sur la séquestration, les coups, enfin, ça peut aller à des violences très fortes, jusqu'à la mort, puisqu'effectivement, il y a aussi les crimes d'honneur, il ne faut pas les oublier. Soit j'accepte, il y a des jeunes qui vont avoir comme stratégie de dire « je ne veux pas rompre avec ma famille » parce que l'isolement, ce n'est pas quelque chose de facile non plus. Hein. Dans la protection des personnes, quand on les met hors de danger et qu'on les met dans les systèmes que nous avons d'hébergement, ben, on se rend compte que ce n'est pas très adapté, que c'est très compliqué. Donc si j'accepte, eh ben, je vais vivre une situation où je vais être obligée d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un que je n'ai pas choisi. Et donc ça va souvent être plus des agressions sexuelles que des rapports sexuels, bien entendu. Très souvent, et là c'est plutôt majoritairement, je vais subir des violences conjugales en plus. Donc il va y avoir une destruction aussi très importante. Alors d'une manière ou d'une autre, que je parte ou que je reste, il faut exactement le même courage. C'est-à-dire que derrière, le chemin va être long, difficile. D'un côté, j'ai l'impression que ma famille m'a trahi. Donc je vis dans cette trahison-là. Et de l'autre côté, quand je suis partie, j'ai l'impression d'avoir trahi ma famille.
On continue de parler du colloque « Prévenir et lutter contre les mariages forcés » organisé par le planning familial à l'école régionale de la Deuxième Chance, jeudi 14 avril, après la pub.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. 107.9. CFM.
Un projet de maison, toutes les solutions de A à Z dans un même lieu. Rendez-vous du 15 au 18 avril au Salon Habitat de Figeac. Le Salon Habitat de Figeac, c'est 60 professionnels pour être en phase avec les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques pour construire, rénover ou aménager en économisant l'énergie. Le Salon Habitat de Figeac, tout pour le plaisir de la maison. Salon Habitat de Figeac, du 15 au 18 avril, espace François Mitterrand. Entrée 5 euros.
À Caussade, du 22 au 25 avril, les traditionnelles fêtes de Pâques se dérouleront à l'espace Bonaïs avec de nombreux concerts gratuits. Vendredi 22, soirée country avec Phil Fazan. Samedi 23, bal avec l'orchestre Tropica. Dimanche 24 dès 22h, disco mobile par Xtreme. Lundi 25 avril, la grande foire de Pâques se clôturera à l'espace Bonaïs dès 18h par un apéritif concert suivi d'un bal animé par l'orchestre Rick Musette. Les fêtes de Pâques à Caussade, c'est aussi la fête foraine pour le plaisir des grands et petits.
Les 15, 16 et 17 avril à Moissac, la Fête des Arts et les Diagonales de Printemps se réunissent pour vous offrir le Printemps des Arts. Trois jours où artistes et artisans d'art vont envahir les rues de Moissac pour une fête éclectique et colorée. Vendredi, concert de l'ensemble Organum à l'Abbatiale. Samedi, exposition, conférence, apéro et café-concert gratuit. Et à 22h, dans le cadre de Musique et Poésie sur les chemins de Saint-Jacques, grand concert hommage à Georges Brassens au Hall de Paris. Les 15, 16 et 17 avril, Printemps des Arts de Moissac. Info, moissac-culture.fr. C'est le printemps. Pour passer un super week-end, faites un détour chez Marty Fleur. Le producteur de fleurs à Bioul vous ouvre ses portes les 16 et 17 avril de 9h à 18h non-stop. Chez Marty Fleur, laissez éveiller en vous la passion des fleurs avec plus de 200 000 plantes à massif, 25 000 géraniums et suspensions diverses. Marty Fleur, le producteur de fleurs entre Réalville et Bioul, ouvert du lundi au samedi. Marty Fleur, 05 63 64 29 27. Dimanche 17 avril, à découvrir parmi les plantes, fromage de chèvre, vin du Quercy et fruits du pays.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
avec le tour jusqu'à 19h. Et l'invité ce soir à 18h, c'est Sandy Beauvais du planning familial à propos du colloque Prévenir et lutter contre les mariages forcés.
Voilà, c'est un colloque qui a lieu jeudi 14 avril à l'école régionale de la deuxième chance. Sandy Beauvais, qu'est-ce que c'est l'école régionale de la deuxième chance?
Alors, l'école régionale de la deuxième chance, il n'y en a pas beaucoup en France et on a la chance d'en avoir une à Toulouse. C'est un lieu où des jeunes qui sont sortis du circuit scolaire, qui ont eu pas mal de galères pour certains et certaines, vont pouvoir retrouver un espace pour reprendre une partie de leurs études, de leur formation, et en même temps mener en alternance un travail en milieu professionnel. C'est pas un endroit où on a des cours avec un professeur, c'est un endroit où on a un coach ou une coach qui va vous accompagner et qui va, suivant où on en est, mettre en place un programme adapté, très individualisé.
D'accord. Alors, c'est dans cette école qu'aura lieu jeudi 14 avril ce colloque, prévenir et lutter contre les mariages forcés. Pour prévenir et lutter contre les mariages forcés, il faut les connaître, évidemment. Est-ce qu'on connaît bien les raisons du mariage forcé, ce qui pousse des parents à marier de force leur progéniture?
Quand on écoute les familles qui mettent en œuvre des projets de mariage forcé, on entend énormément d'alibi. Hein. Il y a toujours des bonnes raisons mariage forcé. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a déjà...
C'est quoi les alibis?
Les alibis. La première chose, c'est ce qu'on sait particulièrement, la première chose, c'est qu'il y a la peur de la société autour et que quand on a des filles, on a peur qu'il leur arrive des choses et que le fait de les marier, on se dit qu'au moins on va être tranquille. Après, elles auront un mari, elles seront protégées. Voilà. Donc ça, c'est déjà une des preuves. Je pense que c'est déjà une chose très importante. Il y a des personnes, dans les personnes qui sont d'origine étrangère, qui pensent avoir aussi une dette au pays et qui vont remplir cette dette en acceptant de marier leur fille ou leur fils avec quelqu'un du pays d'origine. Donc ça, c'est aussi une des raisons des mariages forcés. Ensuite, il y a les pressions communautaires. Alors quand je dis communautaire, je voudrais bien dire que c'est pas nécessairement ethnique et tout ça. Je veux dire, la communauté, ça peut se réduire à une rue, un quartier ou deux, trois personnes qui font un peu la loi sur un territoire et qui disent ça doit se passer comme ça parce que chez nous, ça se passe comme ça. Et du coup, il y a des parents qui vont pas pouvoir faire autrement, effectivement, que de répondre à cette attente parce que sinon, ils seraient complètement coupés du groupe et ne pourraient pas vivre correctement sur le quartier.
On a beaucoup parlé, ça n'a peut-être pas beaucoup de rapport, mais j'en vois un quand même de loin en loin, de ce jeune gars dans une banlieue parisienne qui s'est fait tabasser par ses copains de la cité d'à côté parce qu'il était avec une copine qui n'était pas de la bonne cité.
Oui, c'est un peu différent parce que là, c'est l'idée de penser que les filles appartiennent à un quartier, à une rue et que voilà, c'est un objet qui appartient et à partir du moment où quelqu'un s'en approcherait, on pourrait lui casser la figure. Bon, là, on est quand même dans une organisation.
On est dans une pression du groupe social.
Groupe social, non, je pense qu'on est vraiment dans des stéréotypes qui fait que les garçons ont tous les droits par rapport aux filles. À partir du moment où on serait la fille qui est de la rue, elle appartiendrait au groupe de garçons. Ça marche pas comme ça, la vie. Là, c'est autre chose. Je pense que c'est des jeunes garçons qui n'ont pas encore bien compris où était la place de chacun. Là, par contre, sur les mariages forcés, les alibis, après, peuvent être religieux, on peut vous dire que c'est la culture, on peut vous dire que c'est la tradition. Et c'est un des grands risques, d'ailleurs, par rapport aux professionnels sur les territoires, parce que souvent, on est dans ce relativisme culturel, en disant, c'est comme ça chez eux, ou encore, oui, mais bon, ils veulent, parce qu'ils pensent, ils ont un cadre des valeurs et tout ça, donc c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser une personne dans une situation de dangerosité, à partir du moment où cette personne ne vit pas correctement les choses et ne veut pas de ce mariage. C'est là qu'on doit intervenir. Faut savoir écouter la personne, faut savoir évaluer le danger pour la mettre hors de danger s'il y a danger, parce qu'on est quand même dans la question de la protection, souvent en plus des mineurs, hein, donc en danger, et puis des violences faites aux femmes. Donc ça, c'est important. Et d'un autre côté, quand même, d'arrêter de penser que tous ces alibis... Ces alibis nous sont assez pratiques parfois, parce que quand on est devant une situation, on est un peu perdu, on panique un peu, et on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai moyen de faire? Et c'est vrai que souvent, on n'a pas vraiment les moyens de faire. C'est pour ça que travailler en réseau, c'est drôlement important, parce qu'on a besoin de plein de compétences, puis on a surtout besoin de ne pas être tout seul face à ces situations, qui sont des situations douloureuses et difficiles à accompagner.
Et oui, ça doit être très compliqué, parce que à partir du moment où on va prendre le cas d'une jeune femme qui refuserait d'aller épouser un inconnu dans un pays étranger qu'elle n'a même jamais connu, par exemple. Hein. J'imagine que ça,
c'est des situations qui peuvent arriver.
À un moment, pour prendre en charge cette personne-là, si elle n'est pas majeure, et même si elle est majeure, c'est compliqué, mais on va imaginer que même si elle n'est pas majeure, pour la mettre finalement hors de portée de ce mariage forcé, il faut carrément la mettre hors de portée de ses propres parents, de son propre entourage. Et là, ça devient difficile comme travail.
Alors, on dispose notamment depuis 2005 de possibilités pour éviter la sortie des frontières, pour rapatrier les personnes. Enfin, bon, on a des outils maintenant au niveau réglementaire qui nous permettent de bouger. Sauf qu'il faut que chaque élément du maillot, enfin, chaque maillon de la chaîne soit sensibilisé et sache de quoi il retourne. On a sur ce territoire ici la chance, je pense, de disposer de professionnels, notamment au niveau de la justice, qui réagissent, puisque nous, on a eu des situations, on a eu des réactions très rapides de Madame la procureure. Et c'est vrai qu'il faut que vraiment chaque maillon de la chaîne soit sensibilisé et intervienne à sa place avec ses compétences dans le cadre de ses fonctions. C'est une raison de ce colloque, c'est qu'effectivement, chacun de sa place peut faire quelque chose, mais ça ne peut marcher que si tout le monde s'y met et tout le monde a bien conscience que là, de toute façon, il faut absolument intervenir.
Et puis, il faut aussi que les personnes concernées soient au courant qu'elles peuvent avoir de l'aide, qu'ils ou elles peuvent avoir de l'aide. Donc je sais que par exemple il y a un site internet, je crois qu'il s'appelle mariageforcé.com, sur lequel justement on peut trouver des infos, un numéro vert, lancer un appel, quoi.
Alors, le mariageforcé.com, c'est le réseau de l'Hérault, hein, donc c'est le planning familial de l'Hérault qui, après une demande de plusieurs jeunes filles, qui arrivaient assez massivement d'aide parce qu'elles allaient être mariées comme ça, de cette façon-là, ont interpellé leurs partenaires en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que nous, le planning familial, on est en capacité d'accueillir, d'écouter, de soutenir, mais on peut pas héberger, on peut pas protéger, enfin, donc on a besoin quand même de tous les partenaires. Et les partenaires rencontrés à cette occasion ont dit « Mais nous, on a des situations, c'est pas faire plus que vous, c'est compliqué, quoi. » Donc ils se sont associés tous ensemble et ils se sont dit « Mais on a tous des domaines de compétences, soit l'hébergement, que ce soit l'accompagnement social, tout ça, et peut-être qu'ensemble, on va arriver à faire quelque chose. » Et c'est de là qu'émerge la question des réseaux et c'est ce projet-là que l'Europe, en fait, finance à travers le planning familial national, c'est-à-dire cette expérience de 11 ans qui fait que beaucoup de jeunes filles confrontées aux violences intrafamiliales ont pu trouver de l'aide et des solutions. Et ce site, c'est leur site qui est devenu un site national avec ce projet européen et qui fait que toute personne peut se connecter sur ce site et va pouvoir trouver des adresses où s'adresser sur son territoire. C'est-à-dire, vous avez une carte de France, vous cliquez et vous allez automatiquement avoir un numéro de planning familial. Et le planning familial, après, a tout un réseau de partenaires. Quand les réseaux de mariage forcé existent, ben, c'est encore mieux parce qu'ils sont formalisés. On en a un là sur le Tarn-et-Garonne, hein, comme je vous dis, ça fait plus d'un an qu'il fonctionne. Et donc, je salue les partenaires de ce réseau parce que ce sont des gens avec qui on a grand plaisir à travailler. Et à partir de là, on va pouvoir aider une personne. On va pouvoir aussi la mettre hors de danger s'il faut passer d'un département à l'autre, puisque ce maillage, finalement, avec le fait que les associations départementales du planning sont présentes sur toute la France, même à La Réunion, puisqu'on a La Réunion là qui vient de nous rejoindre dans le projet, on va pouvoir faire passer les jeunes sur d'autres territoires où ils vont être pris en charge par les professionnels locaux.
Alors ça, Sandy Beauvais, c'est pour répondre à des situations urgentes, la réaction à la situation urgente. Il faut sauver telle ou telle personne, l'empêcher ce mariage forcé. Mais j'imagine que vous allez travailler aussi lors de ce colloque sur, puisqu'il y a prévenir, prévenir et lutter contre les mariages forcés, sur éveiller un peu les consciences, parce que l'idée, c'est ça, à long terme, c'est faire changer l'interprétation des choses, faire changer la culture des gens, arriver à les discuter avec ses parents pour qui il est naturel culturellement, par exemple, de faire un mariage forcé, de marier ses enfants de cette manière-là pour expliquer qu'aujourd'hui, on fait différemment.
Alors, bon, c'est vrai que nous, on a tendance à beaucoup de parler sur la dangerosité parce que c'est vraiment, on a identifié que les acteurs de terrain n'avaient pas notamment conscience de cette dangerosité. Par contre, ça n'empêche qu'en termes de prévention, il y a un travail important à faire. Il y a un travail important à faire en termes d'éducation auprès des plus jeunes dans les établissements scolaires et on aimerait vraiment que l'éducation nationale, on puisse mettre en place les circulaires de 2003 parce que la prévention... circulaire de 2003, c'est une circulaire qui oblige chaque établissement à mettre en place de l'éducation sexuelle. Mais c'est vrai, quand on éducation sexuelle, les gens pensent toujours sexualité, le corps, enfin quelque chose assez sanitaire ou vraiment sexualité, un peu tout le commercial pornographique qu'on peut voir dans notre société. Non, en fait, l'éducation sexuelle, c'est apprendre très jeune qu'on est fille, on est garçon au niveau du corps, effectivement, il y a des différences, mais qu'on est en relation les uns avec les autres et qu'on a droit à disposer de son corps et qu'on a le droit d'être autonome sur ces questions. Et ça s'apprend très jeune. Et c'est vrai que quand vous arrivez à 16 16 ans, qu'on vous dit que d'un seul coup vous allez être marié, que vous n'avez aucune information sur quoi que ce soit, vous pensez même pas d'ailleurs qu'il y aura de relations sexuelles, donc vous pensez pas viol, et ça va être une réalité. Donc ça, ça fait partie de la prévention pour que les jeunes puissent apprendre quand même qu'ils ont des droits. Et qui ne sont, ils n'ont pas à être mariés de force.
Déjà les jeunes.
Ça c'est important.
Et après il y a les, comment on fait ?
Et il y a les familles, effectivement, mais là c'est tout un travail qui devrait être fait avec les acteurs de terrain qui travaillent auprès des familles, les animateurs, les acteurs sociaux dans les centres sociaux, tout ça. Où, enfin, il y a vraiment un travail important à faire. Nous on anime dans les plannings familiaux, souvent on anime des groupes de parole avec des femmes. Des fois des groupes avec des hommes, et c'est vrai que c'est des questions qu'on aborde qui sont extrêmement importantes, parce que la plupart des personnes ont connu, eux, des situations de mariage forcé, donc on discute avec eux sur comment ça va se passer pour leurs enfants, essayer de voir un peu comment ils perçoivent les choses. Et ce qui en ressort, c'est quand même la peur de la société autour, et quand même une grande volonté de vouloir protéger leurs enfants.
Il est ouvert à qui ce colloque jeudi, Sandy Beauvais? C'est uniquement pour les professionnels du planning?
Non, c'est pas du tout pour les professionnels du planning. Le planning, on est formé, sensibilisé sur ces questions. C'est avant tout pour toutes les personnes qui, au niveau régional et départemental, les instances qui peuvent, de leur place, avec leur fonction, faire avancer les choses sur leur département. Alors, il a été un petit peu plus ouvert parce qu'on nous restait quelques places, donc on a aussi des acteurs de terrain qui vont pouvoir venir. Par contre, au jour d'aujourd'hui, il est complet. Nous avons tous les inscrits au colloque. Et voilà, il est vraiment fait pour que sur chaque département, les acteurs se mobilisent ensemble sur cette question et mettent en place une organisation qui permette de prévenir, donc de repérer, de prévenir et aussi de protéger si nécessaire des personnes.
Merci Sandy Beauvais d'être venue nous parler de ce colloque, et puis on va se donner rendez-vous dans un mois.
Oui. Avant de partir, je donne le numéro de téléphone quand même auquel on peut joindre de la personne en charge au niveau national de réorienter s'il y a des jeunes qui se trouvaient en situation ou des adultes qui connaîtraient un jeune en situation. Donc le 06 75 23 08 19.
06 75 23 08 19. Et puis on va rappeler aussi ce site internet mariageforcé.com.
.fr.
Merci Sandy. À dans un mois pour un autre sujet.
Pour un autre sujet.
Ça marche.
Au revoir.